Chapitre 12e, Timor. Chinois, Raja, l'empereur Pierre, Meurs. Je croyais en avoir fini avec ce peuple magot, si avancé, si stationnaire à la fois, si philosophe, et si dévotement attaché à des puérilités religieuses et morales, si plein de mépris pour toutes les autres nations, et si bien fait pour ramper aux pieds de quiconque voudra l'assujettir. Mais voilà qu'il faut encore que je vous parle de lui pour ne pas mériter le reproche de partialité si souvent et si justement fait aux voyageurs. Si, dans leur chétive maison où tout est propre, original, bien ordonné, rien ne dénote le luxe, puisque les cloisons qui séparent les appartements sont en tiges de bambou étroitement serrées, il n'en est pas de même des fastueuses demeures qu'ils se sont données après la mort. Ici, tout est grave, solennel. Rien n'y accuse l'avarice ou la mesquinerie. On dirait une éclatante réparation faite à une vie de privation et de gêne. On a voulu que le cadavre fût à l'aise dans son éternelle couche et les accessoires du lieu, qui vous apprennent que la douleur a duré plus d'un jour, vous disent aussi le respect du fils pour son père ou la tendresse du père pour son fils. Une description exacte d'un tombeau chinois est impossible. Le dessin seul peut en reproduire l'élégance et le grandiose. C'est d'abord une pierre tumulaire haute de 3 pieds au moins, quelquefois aussi de 4, sur un pied d'épaisseur, debout, taillé avec grâce en ogive, encadré dans des moulures fort soignées, et au milieu de laquelle est un écusson en marbre ou en granit, tantôt en relief, tantôt creusé, où sont gravés le nom et probablement les qualités morales de celui à qui est consacré le monument. Ses caractères sont noirs, rouges et le plus souvent en or. De chaque côté de cette pierre sépulcrale, au pied de laquelle s'élèvent deux gradins de marbre ou de stuc, s'échappent à 10 pas de distance l'un de l'autre, 2 perrons hauts de 4 pieds au moins, descendant par échelons et venant se joindre, à l'aide d'une ellipse, à 30 pas de la pierre principale et au niveau du sol. L'espace enfermé dans cette vaste courbe est admirablement pavé en dalles polies ou en mosaïque, et c'est dans cet enclos réservé que les Chinois, à genoux, viennent rendre un hommage de chaque jour à celui qui n'est plus. En arrière de la pierre tumulaire est un espace clos par un mur de stuc ou de maçonnerie, légèrement voûté, où repose le cadavre, et autour duquel poussent des fleurs et des plantes odorantes. Ça et là des arbres soigneusement taillés, portent sur la branche des vêtements, des porcelaines et des cabas en feuilles de la tanière enfermant des offrandes faites à l'âme du mort. J'ai hâte d'ajouter que ces offrandes sont souvent renouvelées, au profit sans doute de quelque habile profanateur de ces lieux de repos consacrés au deuil et à la prière. N'y a-t-il pas, dans ce respect des Chinois pour les restes des morts, un motif de pardon pour toutes les iniquités de leur vie de friponnerie et de paresse? Tous les tombeaux chinois n'ont ni la même majesté, ni le même grandiose, ni la même richesse de détails, mais tous, jusqu'au plus mesquin, ont cela de remarquable, que chaque jour de généreuses offrandes viennent les décorer, et que les crevasses et les dégâts occasionnés par les outrages du temps sont à l'instant réparés par une inquiète et pieuse sollicitude, en sorte qu'il est vrai de dire que chez ce peuple si bizarre dans ses goûts et dans ses mœurs, on pense d'autant plus à ses amis ou à ses parents qu'il y a longtemps qu'on les a perdus. C'est surtout au lever du soleil que les Chinois vont prier à leur cimetière, c'est-à-dire aux plus belles heures de la journée. Est-ce que la chaleur ardente du jour étoufferait la piété dans leur âme? Est-ce qu'ils feraient à la fois de leur hommage de respect et d'adoration un délassement et une affaire de conscience? Je ne sais pas, mais en vérité, il en coûte trop à ma sincérité de narrateur de juger favorablement ceux dont j'ai si attentivement étudié la vie parasite, pour que je ne leur garde pas une sorte de rancune de cette piété dont je viens de vous parler et qui me semble un véritable contresens. Ô jeune et fidèle sujet de Tao Kuang, je crains bien de n'avoir alloué chez vous aucun sentiment de noblesse ou de générosité. Vous êtes trop régulièrement avide et fripon avec les vivants pour que les morts aient le pouvoir de changer votre âme. Cependant, il faut achever. Je subis un jour de Chinois qui se rendait au cimetière. En route, ils parlaient avec une extrême volubilité et contre leur usage, leurs gestes étaient rapides et multipliés. Arrivés en présence du champ de deuil, ils se turent, ralentirent leur marche et s'arrêtèrent ensuite dos à dos comme pour se recueillir. Puis, côte à côte et d'un pas grave, ils s'avancèrent vers une tombe de moyenne grandeur, au bord de laquelle ils s'agenouillèrent pour prier. Ils restèrent un quart d'heure au moins dans cette humble posture, et après s'être regardés de nouveau, ils se levèrent et allèrent, l'un derrière l'autre, baiser avec respect la pierre tutélaire. Cela fait, ils se regardèrent une troisième fois, frappèrent du pied en cadence, agitèrent convulsivement à droite et à gauche, et de haut en bas leur tête chauve, et reprirent le chemin de la ville. Je les saluai en passant près d'eux. Ils me rendirent froidement ma politesse et semblèrent craindre que je n'eusse assisté à leurs prières quotidiennes. Ce cimetière chinois, fort curieux et très bien tenu, est situé sur une colline au sud de Kupang. Et à vrai dire, ces tombeaux sont les seuls édifices remarquables de toute l'île. Les Malais n'ont pas de cimetière. Les cadavres sont portés tantôt dans un champ de tabac, tantôt sur le haut de quelques monticules, et le plus souvent sur le bord d'un chemin. La place est marquée par un tas de petits cailloux que les pieds des passants ont bientôt dispersés. Ils en usent envers les morts avec cet amour et cette tendresse qu'ils accordent aux vivants, et je ne crois pas qu'un seul de ces hommes qui m'entourent chaque jour et passe et repasse à mes côtés ait jamais senti son cœur bondir d'amitié ou de reconnaissance. La nourriture des Malais consiste en riz, poissons salés, buffles, poules et quelques fruits. Ils n'ont point d'heure fixe pour leur repas, et les femmes ne mangent jamais avec eux, car elles sont traitées en véritables esclaves. Les femmes malaises sont grandes, admirablement taillées. Leur démarche a quelque chose de noble, d'imposant et d'indépendant qui leur sied à ravir, et on lit dans leur regard une fierté native dont on est soudainement frappé. Leur chevelure est de toute beauté, et rien n'égale les soins minutieux qu'elles lui donnent. Le matin, que vous assistiez ou non à leur toilette, elles se jettent à l'eau à quelques pas de la ville, inondent leur tête de cendres fines, les laissant à demi enlevées par le courant, puis avec un citron ouvert, en guise de pommade ou d'essence, elles donnent un lustre éclatant aux cheveux et à l'aide d'un immense peigne de bois, à 3 ou 4 dents au plus, d'une forme courbe et originale, elles achèvent ce que l'eau, la cendre et le citron ont commencé. Nulle statue antique de Rome et d'Athènes n'est harmonieusement coiffée comme la moins habile des femmes de Timor. La détestable habitude que les hommes ont contractée de se fourrer sur la lèvre supérieure une énorme pincée de tabac assaisonnée de chaud est encore plus en faveur chez les femmes, de sorte qu'à 16 ou 18 ans, elles n'ont plus de dents, ou les ont noires comme du charbon. Elles se prétendent plus belles ainsi, soit, mais en Europe nous avons d'autres goûts. L'ivoire est plus apprécié que l'ébène. Le malheur est d'autant plus grand que celles qui n'emploient ni le bétel ni le tabac ont des dents d'une blancheur éclatante. Les rois de ces pays se disent insolemment les descendants des dieux et gouvernent en véritables despotes. Ils ont droit de vie et de mort. Dans un moment d'humeur querelleuse ou sur un simple caprice, ils font trancher la tête à qui leur déplaît, et le plus souvent ils la tranchent eux-mêmes, sans autre forme de procès, sans que personne n'ose y trouver à redire. C'est un jeu pourtant qui pourrait avoir un jour de graves conséquences, surtout si le vent civilisateur d'Europe arrive plus pur jusqu'en ces climats. Il est cependant à remarquer que parmi ces princes si farouches, si cruels, si sanguinaires, on en trouve parfois quelques-uns qui donnent des exemples de désintéressement et de dignité que l'on comprendrait à peine chez nous. Bao, par exemple, roi de Rôti, étant dans sa jeunesse, d'un caractère violent et emporté, abdiqua volontairement la souveraineté en faveur de son frère, de la crainte que de semblables penchants ne lui fissent commettre de grandes injustices. Mais voyez où le fanatisme et la stupidité peuvent entraîner la puissance. Un jour, que dans un accès de violente colère, Bao venait de décapiter un de ses sujets, furieux et désespéré après l'exécution, il coupa à l'instant même la tête à 2 de ses principaux et de ses plus chers officiers, en expiation, dit-il, du crime atroce qu'il venait de commettre. Bao n'ayant pas été heureux dans le choix de son successeur, qui faisait trembler ses sujets sous son sceptre de fer, le gouverneur de Timor rétablit Bao, et depuis ce jour, ce prince est parvenu à maîtriser les premiers penchants de son âme. Appelé à Kupang pour fournir aux Hollandais son contingent de soldats dans la guerre qu'ils avaient à soutenir contre Louis, monarque révolté, il s'est vu forcé, pour cause de maladie, de confier le commandement de ses troupes à ses premiers officiers et d'attendre, inactif, le résultat de la lutte. On nous en avait fait de si pompeux éloges que nous résolûmes de lui rendre nos hommages, espérant que nous recueillerions auprès de lui une foule de détails précieux sur les mœurs et les institutions des peuples soumis au Raja ses frères, comme on dit ici, ou au roi ses cousins, comme on dirait en Europe. Les visites au prince se font ici sans cérémonie, sans introducteur, sans suisse, ni valet, ni maréchaux aux portes. On va chez eux comme chez un voisin. On cause, on se serre la main, on s'assied côte à côte et l'on se dit adieu. J'étais en veste de toile blanche et en chemise de matelot. Le roi Bao pouvait bien se mettre à l'aise et je ne lui en voulus pas de s'en négliger tout à fait sans façon. Et Valet Teti, roi de Dao, était avec le roi de Roti. Ce dernier avait pour sceptre une canne de jonc à pommes d'or. Il est âgé de 50 ans. Il est grand, bien fait et paraît jouir d'une vigoureuse santé. Ses traits respirent la bonté. Son œil est doux, sa bouche petite et riante. Il est vêtu d'une espèce de manteau dans le genre d'une rideau d'indienne à grandes fleurs en couleur. Sa ceinture est un kain slimut absolument conforme à celui de ses sujets. Il avait les pieds et les jambes nus. Le roi Valet Teti est âgé d'une 60aine d'années. Il est escorté de quelques guerriers et d'un de ses grands officiers qu'on nous a dit être son premier ministre. Ceux-ci ont l'air de deux sapajous et sont mis comme deux mendiants. Le sceptre des rajas est héréditaire. C'est le frère aîné qui succède au gouvernement. Lorsque tous les frères sont morts ou qu'il n'en a pas existé, le fils aîné du premier raja ou l'aîné des frères est l'héritier de la couronne. Les femmes n'ont aucun droit à la succession du trône. Les rajas ont sous leurs ordres des officiers nommés Tumukun, seul dignitaire qui sépare le souverain de son peuple. Le nombre de ces officiers est relatif à la puissance du raja. Celui de l'île de Dao en a 7, Bao, roi de Toti, en a 18. Parmi les peuples appelés à défendre les Hollandais dans la guerre qu'ils ont à soutenir, on remarque les guerriers de Savu et de Solor, qui presque tous servent volontairement. Ceux de Solor surtout donnent dans les combats des exemples d'une cruauté repoussante. On assure que dès qu'ils ont fait tomber un ennemi, ils se jettent sur lui et l'achèvent avec leurs dents. En général, leurs combats sont très meurtriers, il suffit d'une bataille pour décider de l'issue de la campagne. L'île est aujourd'hui un vaste théâtre de rapines, de meurtres et de cruautés. Le gouverneur hollandais Hazard, ancien officier de marine, s'est, à la tête de 10 000 hommes, campé dans l'intérieur pour s'opposer à la levée de bouclier du Raja Louis, dont on dit tant de merveilles. Louis est chrétien, fils de Toboni, roi d'Amano Iban, pays situé à 5 jours de marche à l'est de Kupang, au milieu des possessions hollandaises. Il fut élevé dans la religion catholique, et las enfin des tribus onéreux que lui imposaient les Hollandais, il résolut de se déclarer libre et indépendant. Voilà 10 ans qu'il parcourt Timor, à la tête de sa redoutable armée, assujettissant les rois ses voisins, qui viennent tous à l'envi implorer le secours du résident. Chef d'une poignée de soldats dévoués à ses intérêts, Louis d'Amano et Bang paraît ne pas redouter les efforts de tant d'ennemis coalisés. Déjà, il a su les forcer une fois à lui proposer une paix glorieuse, pendant laquelle sa protection et ses encouragements ont appelé dans ses états un grand nombre de personnes distinguées et d'ouvriers habiles qui, avec le goût des arts, y ont fait naître le commerce et l'industrie. Déjà encore, ses armes victorieuses l'ont conduit, il y a 7 années, aux portes de Kupang, où il répandit la terreur après avoir brûlé quelques édifices et la maison même du gouverneur. Aujourd'hui, qu'on a voulu lui imposer un joug honteux, il s'est déclaré indépendant. Et la tête d'une armée de 6 000 hommes, dont les 2/3 sont armés de fusils et montés sur des chevaux, il ose se flatter d'un succès qui peut affranchir cette colonie d'un pouvoir despotique et détrôner 14 souverains. Les armes de ces soldats sont des fusils, des massues, des sagaies, des criques, une audace étonnante et le génie de leur chef. Louis est adroit. Il a déjà tenté, heureusement, de semer la désunion dans l'armée ennemie. Louis est affranchi de préjugés. Il combattrait à l'ombre si les flèches de ses adversaires obscurcissaient le soleil. Louis est encouragé par ses premiers triomphes. Il a déjà forcé les Hollandais à bâtir un fort à Dao qu'il a jadis saccagé. Louis est prudent. Il a fait construire dans ses états des fortifications qui étonneront les Hollandais et plus encore leurs alliés. Louis, en un mot, combat pour l'indépendance. 14 rajas combattent pour l'esclavage. Les soldats de Louis mourront auprès de leur chef. Il est à craindre que les insulaires réunis sous le pavillon européen ne l'abandonnent avant de combattre ou après le premier échec. Les guerriers de Louis lui sont attachés par la reconnaissance, la crainte seule à rallier les autres insulaires sous la domination hollandaise. Les Anglais ont fait deux expéditions contre le roi Louis, la première en 1815 et la deuxième en 1816, sans pouvoir le vaincre. Il est grand, vif, impétueux, son courage étonnant, mais réfléchi. Ses projets sont hardis, mais non impossibles. Il récompense dignement le mérite et il punit cruellement toute désobéissance. Il ne manque peut-être la gloire de cet homme extraordinaire qu'un historien qui dise ses exploits. Rival redoutable, révéré des Timoriens, l'empereur Pierre, mort aujourd'hui à toute idée d'ambition, ne s'est point agité au choc des cris qui retentissent autour de ses domaines, et sur son lit de douleur, il attend paisiblement sa dernière heure. C'est un nouveau monarque à visiter. Nous nous décidâmes promptement et nous nous mîmes gaiement en route. La route, après avoir dépassé Kupang, est un sentier délicieux ombragé par une riche végétation et bordé d'un côté par le lit d'un torrent qu'on passe souvent à gué. Après une heure de marche, peu à peu, on s'élève et l'on gravit une petite colline au sommet de laquelle est le tombeau de Tai Beno, ancien Raja de cette partie de l'île. Un arbre mort le dominait, et sur deux branches de cet arbre sont deux crânes de Malais encore revêtus de leurs belles chevelures. À la bonne heure, de pareils hommages rendus aux morts. Nous demandâmes à deux naturels qui nous accompagnaient depuis quelques instants la permission de les détacher de l'arbre. « Pas Mali !» nous répondirent-ils d'un air effrayé, et nous poursuivîmes notre route après avoir dessiné le tombeau qui n'offre rien de remarquable. Cependant, nous arrivâmes bientôt sur le territoire de l'empereur. Des troupeaux de buffles, une végétation vigoureuse et quelques terres labourées nous donnèrent d'abord du souverain une idée avantageuse qui s'accrut encore lorsque nous arrivâmes auprès de sa demeure. Nous y fûmes introduits. Son palais est une case en bakouag, goémon, arête de palmiste, le tout lié fortement et recouvert de feuilles de latanier à plusieurs couches. Il se compose d'une seule pièce noire, profonde, ne recevant le jour que de la porte, qui est basse et très étroite. Là, point de meubles, si ce n'est un coffre chinois orné de riches incrustations, dans lequel sont probablement enfermés les trésors du monarque. Plus un vaste fauteuil en bois d'ébène, bien travaillé, que je soupçonnais de fabrique japonaise. Ça et là, à terre, des nattes tressées aux Philippines et plusieurs vases grossiers pour la boisson et la nourriture. Une douzaine de fusils, une vingtaine de criques et un grand nombre de piques et de sagaies tapissaient les murailles. L'empereur était assis dans son fauteuil à bras. À notre arrivée, il se leva à demi, nous tendit la main et nous présenta des nattes sur lesquelles nous nous accroupîmes. À ses côtés étaient deux de ses principaux officiers, debout, à l'air farouche, au regard menaçant, le fusil d'une main, le cric de l'autre, drapés avec leur pittoresque Kain Slimut, et prêts sans doute à enlever nos têtes sur un signe du chef. Mais celui-ci était trop courtois et trop bienveillant pour en user avec cette familiarité. Un petit enfant de 7 à 8 ans, absolument nu, étaillé en athlète, s'appuyait sur l'empereur. C'était son fils, à qui je m'empressais d'offrir un étui, des aiguilles, un paquet d'épingles, des ciseaux et un miroir. Il reçut mes cadeaux avec une grande joie et me permit de l'embrasser. Puis, le priant de rester immobile, je fis son portrait ainsi que celui du monarque. Je leur en donnai une copie que l'un des deux Malais porte avec soin sur le coffre chinois. En échange, je reçus deux sagaies et un cric magnifique, encore tout paré des touffes de cheveux des ennemis vaincus. Pierre portait sur sa figure décharnée les caractères de la décrépitude la plus avancée. On l'aurait cru centenaire, quoiqu'il n'eût que 60 ans ou plus. Mais ici la nature est si active, si puissante, qu'elle pousse bien vite les hommes dans la tombe. Pierre tenait dans la main sa canne à pommes d'or. Il était coiffé d'un bonnet de coton blanc, vêtu d'une robe de chambre à grand ramage, et sur ses flancs osseux flottait un Kain Slimut plus fin et plus beau que ceux que j'avais tant admirés à Kupang. Notre visite fut courte. Nous serrâmes affectueusement la main au patriarche de l'île. Nous revîmes en passant ces belliqueux soldats, dont l'allure guerrière est si imposante. Et nous arrivâmes à Kupang, escortés par un violent orage auquel les solitudes que nous parcourions donnaient un caractère de lugubre majesté. La voix de la foudre dans le désert est à la fois chose terrible et solennelle. Vous croiriez que c'est pour vous seul que jaillit l'éclair et que retentit la menace. L'aspect général de Timor, dominant souveraine ce groupe nombreux de petites îles qui l'entourent comme d'humbles tributaires, attriste et impose à la fois. Ce sont sur la plage de vastes réseaux de lataniers, de bakouas, de cocotiers aux couronnes si élégantes et si flexibles. Puis vient le rima ou arbre à pin, puis encore le pandanus, qui de chaque branche laisse tomber des jets nouveaux auxquels la terre donne de nouvelles racines. Le pandanus, qui à lui seul forme une forêt. Il est baigné au sombre feuillage et l'odorant sandal, dont les ciseaux et les burins chinois font de si admirables colifichets, et tous ces géants tropicaux se pressant sur ce sol vivace auquel les volcans intérieurs ne peuvent arracher ni sa vigueur ni sa sève, et au sein de tant de richesses surgissent, comme des menaces de mort, d'immenses blocs de lave diversement colorés selon la nature des éruptions volcaniques. C'est la destruction à côté de la force, c'est la jeunesse à côté de la caducité, c'est la vie et le néant côte à côte en lutte perpétuelle, sans être vaincu ni l'un ni l'autre, ou plutôt vainqueur et vaincu tour à tour. Timor est sans contredit un des lieux de la terre où la botanique, la minéralogie, la zoologie recueilleraient le plus de richesses. Les Hollandais conquirent Kupang sur les Portugais, qui s'y étaient établis en 1688. Les Anglais l'occupèrent par capitulation en 1797. Les Rajas se liguèrent de nouveau, les forcèrent à la retraite et dévorèrent ceux qui n'eurent pas le temps de s'embarquer. En 1810, les Anglais s'en emparèrent encore avec une frégate, mais enhardis par le souvenir de leur premier succès, les naturels les obligèrent une seconde fois à se retirer, après avoir mis à leur tête le premier gouverneur de Kupang, qui dès lors avait le titre de résident. Après la prise de Java en 1811, les Anglais s'emparèrent pour la troisième fois de cette ville qu'ils rendirent aux Hollandais en 1816, par suite de la paix générale de 1814.